Alors, notre thème de ce matin, c'est être conduit par le Saint-Esprit. C'est un message qui s'adresse tout particulièrement aux nouveaux baptisés, mais qui s'adresse aussi à chacun d'entre nous, en tout cas à chaque enfant de Dieu, à chacun de nous ce matin. Être conduit par l'Esprit de Dieu, être conduit par le Saint-Esprit. Je vous propose deux versets, un dans l'épître de Paul aux Romains et un deuxième dans l'épître de Paul aux Galates. Pour ceux qui le peuvent, je vous invite à vous lever. Romains chapitre 8, verset 14. Vous savez que dans l'épître aux Romains, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 7, l'apôtre Paul ne fait quasiment aucune allusion au Saint-Esprit. Il essaie de développer plusieurs thématiques, entre autres la justification par la foi. Et il arrive au chapitre 8, et là vous avez tout ce chapitre qui est rempli des occurrences concernant le Saint-Esprit. Et le thème de ce chapitre, c'est la vie selon le Saint-Esprit. Au verset 14, donc de Romains 8, l'apôtre Paul dit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, sont fils de Dieu. Et à quelques nuances près, il dit ceci dans Galates chapitre 5, verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi, c'est-à-dire vous êtes sous la grâce. Je vous invite à vous asseoir. Merci. Être conduit par le Saint-Esprit. Frères et sœurs dans le Seigneur, le Saint-Esprit dont il est question n'est pas simplement un concept. Nous savons que la Bible le présente aussi comme un concept. On parle de consolateur. Vous voyez, hein? Oui, c'est un concept, mais pas seulement un concept, le Saint-Esprit. Il est une personne, nous enseigne aussi la Bible. C'est une personne, la troisième personne de la divinité, de la Trinité. Et la Bible nous présente le Saint-Esprit aussi comme étant l'Esprit de Christ. Et cet esprit qui est l'esprit de Christ, frères et sœurs, a aussi quelque chose à voir avec nos vies. Oui, surtout si nous voulons vivre une vie chrétienne, justement, et non pas simplement pratiquer ce qu'on appelle la religion. À cet effet, le Saint-Esprit est la clé. Je ne dirais pas la clé des champs, mais le Saint-Esprit est la clé essentielle pour vivre la vie chrétienne, ou pour être chrétien sans être religieux, voyez, à l'exemple des pharisiens de l'époque de Jésus. Alors, comment le chrétien fait-il pour s'appuyer sur le Saint-Esprit? Voici entre autres une formule que vous n'avez peut-être pas encore essayé, mais qui marche à plus. Cette formule, c'est: attendez, ne faites rien. Attendez, ne faites rien. Avec Dieu, vous l'avez certainement remarqué, avec Dieu, vous serez mis devant des situations où faire quelque chose, voyez, ne ferait que compliquer le problème en quelque sorte. Cela rendrait la difficulté encore plus grande et ferait grandir la confusion. Faire quelque chose. Ne rien faire est une tragédie consciente, positive et même est une stratégie, pardon. Ne rien faire est une stratégie consciente, positive et même constructive. Je prends une illustration. Devant un verre d'eau trouble, un verre d'eau où il y a de la saleté à l'intérieur, La stratégie serait de faire quoi? La stratégie serait de ne pas le toucher, de poser, de ne pas toucher, et la saleté va au fur et à mesure justement se déposer au fond du verre. C'est une façon de purifier l'eau et aussi de laisser s'éclaircir une situation confuse. L'attente met les choses à leur place. L'attente, elle va vous aider à voir les choses dans leur perspective. On ne va pas dire les choses en perspective. Mais attendre ne veut pas dire ne jamais rien faire au sujet d'un certain problème. Mais attendre sans rien faire par vos propres forces, par vos propres moyens, vos propres efforts, est une façon de s'appuyer sur la personne du Saint-Esprit. Si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, frères et sœurs, vous devez y être non seulement sensible, mais aussi cultiver une relation quotidienne avec lui. Deux passages donc nous indiquent cela. Romains donc 4, 8, 14, que je viens de lire. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le temps employé ici par l'apôtre Paul indique la continuité. Si bien que ce verset serait traduit aussi de la manière suivante, car ceux qui sont conduits régulièrement par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et le mot grec « fils » ne fait pas allusion ou référence au bébé. Ce n'est pas « technon » qui signifie « bébé », mais « ouios » qui signifie « fils » et qui fait référence à des enfants devenus matures, devenus mûrs. Quand vous êtes né de nouveau du Saint-Esprit, vous devenez, d'après la Bible, un bébé spirituel. Il n'y a qu'une seule façon de passer de l'enfance à la maturité, il s'agit de se laisser guider par le Saint-Esprit. Alors, que devez-vous faire donc pour devenir un fils de Dieu mature, un fils de Dieu mûr? Vous devez être conduit, dit l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit. Nous savons d'ailleurs qu'il n'y a pas d'autre moyen que de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre moyen. Dans ce verset, je disais, Paul utilise un temps continu, ceux qui sont régulièrement conduits par l'Esprit de Dieu. À cet effet, on peut se poser la question suivante, qui sont en réalité les fils de Dieu? Je retourne juste le verset. Qui sont en réalité les fils de Dieu? Et la réponse se trouve dans ce verset. Ceux qui sont régulièrement conduits par l'Esprit de Dieu. Je peux proclamer que je suis fils de Dieu, oui, fils de Dieu. Mais Paul nous dit, ceux qui sont, il faut grandir donc en maturité dans le Saint-Esprit. Pour le dire autrement, je vis comme fils de Dieu si je suis régulièrement conduit par le Saint-Esprit. Nous devons être conduits, frères et sœurs, non par des règles, non par des principes, non par des techniques, non par des procédures et tout le reste. Mais l'apôtre Paul, la Bible dit, par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Nous avons appris peut-être certaines règles, certains principes, certaines techniques, certaines procédures et j'en passe. Alors, toutes ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais ce qui est mauvais, justement, c'est de se confier en eux. Oui, la Bible nous dit qu'il n'y a une seule personne en qui nous pouvons totalement, pleinement avoir confiance. C'est le Saint-Esprit. Si nous nous confions en lui, il nous guidera effectivement vers les règles, il nous guidera vers les procédures, les techniques appropriées. Si nous nous confions uniquement à des règles, nous n'obtiendrons que ce que les ressources humaines, voyez-vous, peuvent nous offrir. Mais en tant que chrétiens, nous devons offrir au monde, voyez-vous, autre chose que les règles, les procédures. Nous avons un merveilleux ami, dit la Bible, dont le nom est le Saint-Esprit. Il met à notre disposition des ressources surnaturelles et célestes, le Saint-Esprit. Ensuite, le verset qui nous encourage, le deuxième verset qui nous encourage à être non seulement sensible, mais aussi à cultiver une relation avec le Saint-Esprit, je l'ai vu, Galates 5, 18, qui nous dit quasiment la même chose, à quelques nuances près, si vous êtes conduit, et on peut ajouter aussi régulièrement, par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Nous comprenons par là que le seul moyen, la seule façon, ou le seul chemin pour aller vers la maturité spirituelle est d'être conduit par l'Esprit. Si nous sommes conduits par l'Esprit et que nous devenons mûrs, alors, dit l'apôtre Paul, nous ne sommes plus sous la loi. Vous ne pouvez pas mélanger la loi et l'Esprit, dit Paul en quelque sorte. Vous devez prendre une décision incroyable et peut-être qui fait peur. Je ne ferai plus confiance à une série de règles pour devenir juste devant Dieu. C'est ce que Paul dit. Mais il connaît, il sait de quoi il parle. C'était un maître de la loi, l'apôtre Paul. Je me confierai simplement et humblement au Saint-Esprit pour me guider. Voici une question qui peut paraître angoissante pour certains. Si j'arrête de faire confiance à des règles, que va-t-il se passer? Est-ce que je vais me tromper? Je vais m'égarer? Laissez-moi vous rassurer, bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit ne vous conduira jamais à faire quelque chose de mauvais. Vous pouvez lui faire confiance, d'autant plus qu'il est votre sécurité. Vous pouvez lui faire confiance. Jésus a dit lui-même dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, au verset 7, je cite, « Qu'il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille, pardon, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » En substance, que nous dit-il ici? Il nous dit, Jésus, quelque chose de très important, de très puissant, que l'on peut interpréter comme ceci. Le ministère du Saint-Esprit est bien meilleur. Le ministère du Saint-Esprit. Dans la nouvelle dispensation, dans le temps de la grâce, le ministère du Saint-Esprit est bien meilleur. Alors je dirais moi aussi, mille fois meilleur que d'avoir Jésus lui-même en personne avec vous. Voilà ce que Jésus dit lui-même. Quelques personnes ont marché avec moi alors que j'étais sur la terre, mais je m'en vais. Je m'en vais. Ce ne sera plus quelques personnes, mais ce sera tous ceux qui vont m'accepter comme Seigneur et Sauveur qui vont marcher avec moi par le Saint-Esprit. Quand Jésus était en Galilée, il n'était pas en Judée, ni en Bethanie, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, avec le ministère du Saint-Esprit, Jésus est partout. Il est avec moi, il est avec toi, il est avec nos bien-aimés qui sont à Singapour, ainsi de suite. Et c'est ce que Jésus disait, qu'il était avantageux pour nous qu'il s'en aille. Dans Galates 5, verset 16, l'apôtre Paul dit, « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. » La marche dans le Saint-Esprit. Nous devons apprendre, frères et sœurs, à composer avec le Saint-Esprit. Surtout quand nous sommes au début de notre marche chrétienne, de notre vie dans la foi. C'est là que les fondements sont posés. C'est là qu'il faut poser les fondements, comme un vol, l'aigle, on a parlé, qui s'apprête à décoller. Il faut bien prendre l'élan si vous voulez voler en altitude, aller plus haut. Il faut bien prendre l'élan. Et c'est là que ça se passe, bien aimé. Au début, nous devons apprendre à composer avec le Saint-Esprit. Nous devons réaliser la nécessité de marcher, dit l'apôtre Paul, selon l'Esprit. Toute la vie d'un enfant de Dieu, frères et sœurs, Et bien, c'est une école du Saint-Esprit. Le but étant de vivre, je disais, la vie chrétienne de manière plus efficace, mais toujours plus efficace. Et de la vivre comme Dieu veut, justement, que nous puissions la vivre. C'est la seule façon. Marcher selon l'Esprit signifie quoi exactement? Cela signifie marcher avec l'Esprit de Dieu. Vous voyez les nuances? Marcher selon l'Esprit signifie marcher avec l'Esprit de Dieu. Et marcher avec l'Esprit de Dieu veut dire simplement marcher avec quelqu'un. Avec quelqu'un. Autrement dit, se laisser conduire par le Saint-Esprit dans sa vie de tous les jours. Donc, marcher selon le Saint-Esprit signifie se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il est devant moi et moi je suis derrière en train de le suivre. Marcher selon l'Esprit signifie aussi marcher par le Saint-Esprit. Selon le Saint-Esprit signifie d'après le Saint-Esprit. Cela signifie aussi par le Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on dit marcher par le Saint-Esprit, cela signifie que le Saint-Esprit devient le moyen. Vous voyez, le moyen par lequel nous marchons, le Saint-Esprit. Il s'agit donc de dépendre totalement du Saint-Esprit. La question à se poser, c'est est-ce que toi et moi, mon bien-aimé, nous dépendons vraiment du Saint-Esprit? Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle tout le temps. Voilà un sujet à explorer. Dépendre du Saint-Esprit. Dépendre du Saint-Esprit. Marcher selon l'Esprit signifie aussi marcher, d'après la Bible, signifie aussi marcher d'après la face de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous avons beaucoup cette occurrence, marcher d'après la face de Dieu. Comment on dit, chercher à plaire à Dieu. On dit d'une personne qu'elle est chrétienne lorsqu'elle marche selon l'Esprit. Cela veut dire qu'elle cherche à plaire à Dieu dans sa vie de tous les jours. De tous les jours. Nous devons nous mettre à l'école du Saint-Esprit, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, sans a priori, sans avoir peur. Nous avons tout à gagner. Il est important de savoir que ce que Dieu veut, c'est que son Église soit vivante. Il est un Dieu vivant, sa parole est une parole vivante, son esprit est un esprit vivifiant. Donc, son Église doit être vivante. Mais l'Église, bien aimée dans le Seigneur, ne sera jamais vivante en dehors de nos vies spirituelles. C'est nos vies spirituelles rassemblées ensemble qui rendent l'Église vivante. Si nos vies spirituelles ne sont pas vivantes, voyez-vous que l'Église ne le sera jamais. Puisque l'Église, c'est nous, c'est chacun de nous. En réalité, l'Église ne sera jamais vivante si les dons spirituels ne sont pas abondants. L'Église, ou ne sont pas abondamment répandus dans l'Église. Je vous encourage, c'est le sujet de notre journée de rentrée en septembre, je vous encourage à venir nombreux pour cette problématique, cette thématique très importante dans la vie de l'Église, dans la vie de chacun d'entre nous. Les dons spirituels, oui, les dons spirituels doivent être répandus dans l'Église. La Bible dit aspirer aux dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12. Aspirer aux dons spirituels. Frères et sœurs, voyez ce mot aspirer en grec, zélo, aspirer. Voyez, quand on dit aspirer quelque chose, c'est quoi? Aspirer, c'est tirer cette chose avec de la force. Aspirer quelque chose. C'est comme si l'apôtre Paul disait presque, permettez-moi peut-être de caricaturer, mais c'est l'image que cela nous donne, mais vous devez en quelque sorte obliger Dieu à vous accorder les dons spirituels. Aspirer. Aspirer. Oui. En fait, ça rejoint la parabole du juge unique. Voilà, dans la Bible, Luc chapitre 18, verset 5, la parabole du juge unique, au verset 5, il est dit, néanmoins, c'est parce que cette veuve m'importune. Et c'est ça, quand vous aspirez à quelque chose, vous faites quoi? Vous importunez Dieu. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Et le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu, de son côté, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Non. Bien-aimé, j'ai dit, c'est comme si Paul disait presque, vous devez obliger Dieu à vous accorder les dons spirituels. Ce passage renvoie à quoi? Quand Paul dit aspirer aux dons spirituels, mais ce passage renvoie à la persévérance. À la persévérance, au fait d'importuner Dieu. C'est la persévérance, d'ailleurs, dans Luc 18, dans Luc 11, au verset 8 à 9, cela ressort bien. Car il y a même le mot importuné au sujet de la prière persévérante. Remarquez, bien aimé dans le Seigneur, qu'il n'est pas dit désirer les dons spirituels. Non, ce n'est pas ce que Paul dit. Paul dit aspirer, aspirer. Désirer, vous voyez, c'est trop faible par rapport à aspirer. Quand on aspire à quelque chose, on se bat. On paye le prix pour avoir la chose. On se sacrifie pour avoir la chose. Alors que désirer, vous voyez, bon, je désire, c'est presque un souhait. Je désire. Donc que je l'ai ou que je ne puisse pas l'avoir, c'est pas grave, je désire. Non, c'est pas ce que Paul dit. Ce que Dieu veut, bien aimé dans le Seigneur, c'est que son Église soit vivante à travers les dons spirituels. Qu'est-ce qui rendra son Église vivante? Et c'est lorsque la présence de Dieu est honorée, c'est-à-dire valorisée. Mais comment est-ce qu'on peut valoriser cette présence de Dieu? En montrant au Saint-Esprit qu'on le désire. Il faut désirer le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est le maître, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais le Saint-Esprit est le maître d'ouvrage de l'Église. Alors, le maître d'œuvre lui-même étant Jésus. Le Saint-Esprit est le maître d'ouvrage de l'Église. Jésus est le maître, parce que le maître d'œuvre, parce que c'est lui le propriétaire de l'Église. Le Saint-Esprit est le maître d'ouvrage, c'est-à-dire que c'est lui qui exécute les travaux dans l'Église. C'est lui. S'il est le maître d'ouvrage de l'Église, vous comprenez que rien ne peut se faire sans lui, rien ne peut se faire sans son conseil, rien ne peut se faire sans ses orientations, sans ses directives, rien. Les gens pensent qu'à la puissance du Saint-Esprit. Voilà ce à quoi les gens pensent le plus souvent, la puissance du Saint-Esprit. Mais une puissance est simplement une énergie. Une énergie. Personne, vous voyez, n'a besoin de respecter, par exemple, l'électricité. Vous voyez, l'électricité qui est une puissance aussi. On n'a pas besoin de dérouler le tapis rouge pour une chose, pour l'électricité. Mais c'est à une personne qu'on dresse un tapis rouge. Il ne faut pas dresser le tapis rouge à l'onction de l'Esprit-Saint. Mais c'est à l'Esprit-Saint qu'il faut dresser un tapis rouge. Si l'Esprit est honoré, il va venir en ce moment-là avec l'onction. Il va venir avec la puissance et nos cultes seront effectivement remplis, saturés, inondés de la présence de Dieu. Et nous aurons tous à gagner dans la présence de Dieu. Chaque fois que je fais la lecture du discours de Pierre à la Pentecôte, prédication de Pierre à la Pentecôte, acte 2, verset 14 jusqu'à 36. D'ailleurs, le verset 36 nous a aidé dans la confession de foi de ceux qui étaient candidats au baptême. Mais chaque fois que je fais la lecture de ce discours de Pierre à la Pentecôte, acte 2, 14 à 36, je sens en quelque sorte monter dans mon cœur un sentiment, mais vraiment un sentiment de joie immense. Mais vous voyez, simplement à l'idée que je le dis souvent, en tout cas c'est sûr, mais vraiment sûr et certain que Jésus, là où il était assis sur son trône, après son ascension, mais s'est senti heureux de Pierre. Il s'est senti content de, et fier même de Pierre au jour de la Pentecôte. Mais nous connaissons tous Pierre avant la Pentecôte. Et je me dis, mais certainement, enfin ça c'est moi, mais que Jésus s'est adressé à son père pour dire, mais je suis fier de Pierre. Mais c'est Pierre qui parle à la foule. Lui qui avait peur, lui qui m'avait renié. Il s'adresse à une multitude de gens et je suis sûr, frères et sœurs, que ça vous est déjà arrivé de lire ce passage et de remarquer que mais c'est un profond sujet, je dirais même d'étude biblique. Il dit des choses profondes, l'apôtre Pierre, mais c'est un passage à étudier et peut-être même à disséquer mot à mot, verset par verset. Pierre a touché une liste énorme de sujets dans sa prédication. C'est vraiment une prédication remplie de l'Ancien Testament, de tout ce qui était de l'ordre de l'ombre, comme on dit, hein, l'ombre des choses à venir. Et Pierre déclare que tout cela a été accompli en Jésus. Tout cela. Bien-aimé, je parlais de la joie au jour de la Pentecôte. Oui. C'est parce que c'est à cela que Jésus a travaillé quand il était sur la terre. Durant 3 ans et demi, mais pour amener ses disciples à le comprendre, il pouvait dire dans Jean 14, mais que vos cœurs ne se troublent point. Mais comment à l'idée où toi tu vas mourir et que nos cœurs restent remplis de joie? Oui, c'est à cela qu'il a travaillé. Et le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, la Bible leur a été ouverte en quelque sorte dans sa totalité. Ils ont compris. Ils ont vu et ont été libérés par la vérité et la lumière de l'Évangile. Je crois que Jésus s'est exclamé, c'est pour cela que j'ai vécu et souffert. Mais c'est pour ça. Mais pour que nous aussi, nous puissions recevoir le Saint-Esprit et vivre dans la joie, quelles que soient les tribulations. Que votre cœur ne se trouble point. Ces hommes ont vu enfin. Ils sont désormais mes représentants, pouvait dire Jésus. Les compagnons de Jésus, oui, il s'agit de ceux qu'il voit comme lui, il voit à travers le Saint-Esprit. C'est ce qui se passe dans toute vraie communion. Voir les choses de la même manière. Il ne peut donc pas y avoir une réelle communion entre deux personnes si elles n'ont pas la même vision. Mais Dieu veut par le Saint-Esprit que nous puissions avoir la même vision que lui. Deux personnes qui n'ont pas une réelle communion peuvent avoir le désir de rester unies. Mais cela est difficile lorsque l'une des deux ne voit pas ce que l'autre voit. C'est difficile. Moi, je vois ça et toi, tu vois autre chose. Oui, c'est difficile. Combien c'est embêtant. On peut vouloir s'accorder jusqu'à un certain point, mais il sera impossible d'avancer plus loin, plus loin, plus loin. Les Écritures disent, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas entendus d'avance au préalable? Amos 3, non. Une réelle communion repose, frères et sœurs, sur une compréhension mutuelle. Et je pense qu'il y a peu de choses que Jésus demande et désire autant que d'avoir les hommes qui le comprennent. Et ça passe par le Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu a toujours désiré. Cette pensée est reprise par son Fils pour être confiée à ses disciples. Jean dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Nous sommes en communion. 1 Jean chapitre 1, verset 7. La communion avec le Seigneur et la communion les uns avec les autres ne peut exister que si nous marchons dans la lumière. La lampe a donc été réallumée. La lumière est née de nouveau. la faculté qui est la lampe de la vie spirituelle, de la lumière, de l'intelligence, de la connaissance, de la perception spirituelle, de l'héritage spirituel, a été amené dans une voie nouvelle. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est pour que nous soyons éclairés de la lumière venue directement d'en haut. C'est l'esprit de l'homme qui avait perdu son pouvoir de connaître Dieu et les choses de Dieu et qui est ramené dans la vie à la nouvelle naissance, comme sortant de la mort, ramené de la lumière comme sortant de l'obscurité, ramené de la connaissance comme sortant de l'ignorance, ramené à la vue comme sortant de l'aveuglement. Bien aimé, notre sécurité est dans le Saint-Esprit. Le chemin sûr, c'est d'être toujours prêt à se laisser enseigner et instruire par le Saint-Esprit. Nous devons nous soumettre joyeusement à Christ et avoir confiance que le Saint-Esprit nous appliquera la mort de Jésus pour que la vie de Jésus aussi devienne visible en nous. Dès qu'il aura le contrôle de tout, le Saint-Esprit renversera la puissance de la chair et fera voir que c'est Christ qui est notre vie. Mais le fondement de cette vie est et restera toujours. L'apôtre Paul le dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Si nous vivons par la foi et marchons dans l'obéissance, nous pouvons attendre de l'Esprit qu'il fasse en nous une chose ou une œuvre merveilleusement sainte. Croyez en ce don que le Seigneur nous a fait, le Saint-Esprit. Ayez l'assurance qu'il est en vous, le Saint-Esprit. Considérez la chose comme le vrai secret même de la vie chrétienne. Son esprit demeure dans la profondeur la plus intime de votre esprit. Méditez la chose. Croyez en sa réalité, rappelez-la à votre souvenir jusqu'à ce que cette glorieuse vérité produise en vous une crainte sacrée, un saint et merveillement l'Esprit de Dieu habite en vous. Apprenez ensuite à suivre ces directives. Notez bien que ces indications n'émergent pas de votre intelligence, de votre entendement, de vos pensées, c'est quelque chose de vivant. C'est comme de la vie qui apparaît de façon successive. Aujourd'hui, une quantité, demain, une autre. Aujourd'hui, une dose, demain, une autre qui s'ajoute. Ainsi de suite, nous devons céder devant Dieu et laisser le Saint-Esprit gouverner toutes choses. Il manifestera le Seigneur Jésus dans notre vie, car il est là. Il est là précisément pour ça. Jésus a dit, il me glorifiera, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'accordera. Si vous laissez le Saint-Esprit de Dieu faire en vous par la croix une œuvre plus profonde, votre circoncision de cœur deviendra toujours plus réelle. Paul a dit, les circoncis, mais c'est nous. Les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Philippiens chapitre 3, verset 3. C'est dans le Saint-Esprit que nous devons mettre notre confiance. C'est en lui que nous devons nous soumettre. C'est à lui que nous devons nous soumettre. Si notre confiance est ainsi placée et notre obéissance ainsi rendue, la chair, je vous assure, sera maintenue à la place qu'elle a siècle et de ce fait, elle perdra sa puissance. Que Dieu nous soit favorable, que Dieu nous soit propice pour que nous ne mettions plus aucune confiance en la chair. Oui, que nous puissions réellement considérer le Saint-Esprit comme un avantage. Jésus a dit dans Jean 16, verset 7, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Bien-aimés, Dieu n'a jamais créé quelqu'un juste pour vivre sur cette terre, mourir et disparaître. D'ailleurs, la Bible dit qu'il qu'il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Mais ce n'est pas seulement une pensée. Dieu a créé l'être humain pour l'éternité en réalité. Vous voyez ce chant que nous allons accomplir tout à l'heure, né de la poussière et d'éternité. En l'homme, oui, il y a la poussière, nous sommes tirés, mais il y a l'éternité en nous. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui vient placer cette éternité en nous. Oui, il veut que chacun de nous fasse et accomplisse quelque chose de spécial venant de lui. Voilà ce que Dieu veut à travers le Saint-Esprit. Ce ne sera peut-être pas aussi grand que ce que certaines personnes ont fait, mais ce qui est vrai, c'est que cela répondra à un besoin de Dieu lui-même qu'il veut te révéler. Et tu dois avoir cette relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Retenons que seul Dieu, le Saint-Esprit, connaît le cœur de Dieu le Père. Lui seul peut nous révéler les pensées et les désirs de Dieu le Père, afin qu'à notre tour, nous puissions les accomplir pour lui, selon qu'il est dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Que Dieu nous bénisse et bénisse sa parole. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour le salut que tu nous as donné en Jésus-Christ. Un salut merveilleux. Sur la base d'un plan merveilleux qui a commencé depuis le jardin d'Éden, après la chute, jusqu'à Apocalypse 22, lorsque nous lisons notre Bible, jusqu'au retour de Christ. Et Seigneur, ce qui est dit dans ta Bible ne cesse de s'accomplir et finira par s'accomplir. Tu as promis le Saint-Esprit et tu nous l'as envoyé. Seigneur, accorde-nous de lui laisser toute la place afin qu'il marche avec nous, afin que lui prenne les choses en main, que nous puissions tout simplement obéir à ce qu'il nous demandera de faire. Oui, les œuvres, tu les as préparées d'avance, mais comment pourrions-nous les connaître si nous ne nous appuyons pas sur le Saint-Esprit? C'est lui qui nous révèle ses œuvres et qui nous donne la force, la capacité de pouvoir les accomplir pour la gloire de Dieu le Père. Que l'Esprit nous vienne en aide et que l'Esprit vienne en aide aussi à son Église. Te disant merci pour ta parole, bénis-la dans ton cœur, au nom de Jésus. Amen. Amen.